Voilà, aujourd'hui, je vous invite à entendre comme lecture dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 3 en entier. Allons-nous de nouveau nous recommander nous-mêmes, ou bien avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour ou de votre part ? Notre lettre, c'est vous, lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. De toute évidence, vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons grâce au Christ devant Dieu. Ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions mettre à notre compte. C'est de Dieu que vient notre capacité. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Or, si le ministère de mort gravé en lettres sur la pierre a été d'une gloire telle que les Israélites ne pouvaient fixer le visage de Moïse à cause de la gloire pourtant passagère de ce visage, combien le ministère de l'esprit n'en aura-t-il pas plus encore ? Si en effet le ministère de condamnation fut glorieux, combien le ministère de la justice ne le sera-t-il pas plus encore ? Non, même ce qui alors a été touché par la gloire ne l'est plus face à cette gloire incomparable. Car si ce qui était passager a été marqué de gloire, combien plus ce qui demeure le sera-t-il ? Fort d'une pareille espérance, nous sommes pleins d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui se mettait un voile sur le visage pour éviter que les Israélites ne voient la fin d'un éclat passager. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'au jour, lorsque on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il n'est pas levé, et c'est en Christ qu'il disparaît. Oui, jusqu'à ce jour, chaque fois qu'ils lisent Moïse, un voile est sur leur cœur. C'est seulement par la conversion au Seigneur que le voile tombe. Car le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image, avec une gloire toujours plus grande, par le Seigneur qui est Esprit. Oui, Père, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous invite à prendre le chant 253 avant de revenir sur ce passage. Voilà cet épître aux Corinthiens avec cette église de Corinthe qui a donné tant et tant de soucis à l'apôtre Paul. Vous savez que cette église était divisée parfois, les uns se réclamant d'Apollos, les autres de Pierre, les troisièmes de Paul et que sais-je encore. Cette église avait pas mal de cas d'inconduite aussi. L'église assez mouvementée à l'image de la ville de Corinthe qui elle-même était connue par des dictons tels que « vivre à la corinthienne ». Qui voulait dire une vie particulièrement dissolue, facile, tout ce que vous voulez. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est de voir que Paul, dans ce passage que nous avons lu, met ses Corinthiens, ses membres de l'église de Corinthe à un très très haut niveau. Visiblement, les difficultés que Corinthe représente pour l'apôtre Paul, Paul aime cette église sincèrement et qu'il espère beaucoup en elle, visiblement. Ils sont comme une lettre de recommandation et ils sont porteurs de cette lettre et ils sont même transfigurés, c'est ce que dit en gros le texte à la fin, malgré tous les malgrés que je viens d'énumérer. Alors il écrit à cette église dans laquelle il y a sans doute beaucoup de juifs récemment convertis, ce qu'on appelle les judéo-chrétiens, qui sont à la fois encore juifs et encore un peu chrétiens, et déjà un peu chrétiens. C'est difficile d'arriver à les situer, mais ce sont des gens qui tiennent encore terriblement à la loi. Ils la connaissent très bien, cette loi, le fameux décalogue, entre autres. Ils se demandent si le salut passe vraiment par la loi ou est-ce que le salut passe par Jésus-Christ uniquement. C'est aussi sans doute un problème de Paul qui, dans ce débat, utilise son style qui est particulier, qu'on appelle la diatribe, où il pose lui-même les questions auxquelles il répond pour faire avancer le débat. Il est tel qu'on le connaît, assez radical finalement et quelque peu polémique aussi. Et puis là, selon son style bien particulier, des formules choc. L'esprit, la lettre tue, l'esprit libère. Vous connaissez ce passage, cette phrase qui est devenue même un proverbe. Hein. Et là où est l'esprit, là est la liberté. C'est pour ça que ce passage est quand même assez intéressant. Mais c'est aussi un passage qui a une petite note historique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il parle de l'ancienne alliance, finalement. Mais c'est la première fois dans l'histoire qu'on va parler d'ancienne alliance pour parler de l'Ancien Testament, vous voyez, de la Torah et des prophètes. C'est la première fois. Nous sommes en 52. Une période intéressante, c'est un détail, certes, mais c'est un détail intéressant parce que c'est là qu'on voit par ce détail qu'on est en train de bien faire une séparation chez les théologiens de la première génération entre ce qui est de l'ordre de la première alliance, celle du Sinaï avec les commandements, et puis une deuxième alliance qui se dessine à travers le ministère de Jésus-Christ, à travers sa mort et sa résurrection. Paul, il est là. Et sans doute que Paul lui-même, qui est un juif pharisien, vous savez, de formation, puisqu'il a été élève de Gamaliel, se pose sans doute des questions lui aussi, vraisemblablement, à ce sujet. Comment garder la loi et comment entendre la parole libératrice de Jésus-Christ ? L'ancienne alliance, elle a quelque chose de formidable. Le prophète Ésaïe, qu'on a lu dans la liturgie, là, les trois passages le montrent bien. D'ailleurs, il parle d'alliance aussi, le prophète Ésaïe. Je sais pas si vous avez remarqué. Il est dans cette première alliance complètement, et avec une très haute hauteur de vue, d'esprit, finalement. Et on dit souvent que le prophète Ésaïe, c'est le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Vous savez, faut pas le dire aux amis juifs parce que bon, ils vont trouver que c'est un petit peu de l'abus. Je veux dire, et de la récupération. Mais je pense que bien des chrétiens peuvent trouver des accents dans le livre d'Ésaïe qui sont des accents véritablement qui annoncent un message assez extraordinaire. L'ancienne alliance a quelque chose de formidable, je crois. Je pense qu'elle rayonne véritablement. C'est pas pour rien que le visage de Moïse est dit lorsqu'il descend de l'Horeb dans son face-à-face avec Dieu qui lui a remis la loi, dit qu'il rayonne avec ces rayons qu'on a représentés par des cornes, comme on a pu dans les sculptures, ce que vous savez. Elle rayonne véritablement parce que cette loi est à la fois un témoin de quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé, aussi un instrument. La loi est là pour faire vivre, c'est important. Les Hébreux qui ont vécu la loi, qui l'ont vraiment appliquée dans l'Antiquité, grâce à leur rigueur d'application de la loi, ont pu vivre et ont pu traverser l'histoire. Une histoire quand même extrêmement difficile pour eux. Il ne faut pas perdre de vue que c'est un tout petit pays, hein, Juda et Samarie, que le peuple hébreu est pratiquement rien, dire dans l'histoire, comparé aux grands empires qui sont autour, que ce soit au sud, l'Égypte, le Rartou au nord, en Arménie, ou l'empire assyro-babylonien à l'est. Dire là-dedans, Israël et Juda ne sont que pratiquement rien, ne comptent pas, ne pèsent pas lourd. Et pourtant, ce sont eux qui ont subsisté. Bien, le peuple juif qui a subsisté de cette haute antiquité grâce à cette loi qu'ils ont suivie, qu'ils ont appliquée, qu'ils ont entendue. Une loi qui avait, certes, qui est inspirée très fortement des lois qui existaient déjà dans les royaumes environnants du Moyen-Orient. Ça, c'est évident, de Babylone et autres lieux, puisqu'on a retrouvé ces stèles avec des pratiquement mot pour mot certains passages qui ont été repris dans la loi de Moïse. Mais les Hébreux l'ont vécu d'une manière assez extraordinaire. Et cette loi a rayonné dans le monde. Elle a rayonné dans le peuple hébreu, elle a rayonné dans le monde par la suite. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue cela, mais cette loi, si elle porte en elle la marque de Dieu telle qu'elle est vécue, c'est les rayonnantes d'une certaine manière, c'est les reflets de la gloire divine. C'est vrai que cette gloire est passagère, comme le dit Paul. Il exagère un petit peu dans ce passage diatribe de l'Épître aux Corinthiens. Mais c'est vrai que Moïse avait un voile sur son visage pour ne pas empêcher les Hébreux de le rencontrer face à face, parce que vous savez qu'on ne peut pas voir la gloire divine sans mourir dans la tradition vétérotestamentaire. Paul dit, mais ce voile n'a pas d'intérêt d'abord parce qu'il n'a pas duré sur le visage de Moïse, donc il dit que la gloire est que passagère. Mais la loi est quand même positive, le commandement est positif. La loi organise, elle protège, elle transmet un enseignement et elle se transmet elle-même aussi. Mais le problème, lorsqu'on a une loi qui est écrite, c'est la tendance, le risque qu'il y a à la figer finalement. Vous savez, nous avons des expressions quand on dit par exemple « ce que je dis c'est gravé dans le marbre ». Vous savez, cette expression, lorsque quelqu'un dit ça, ça veut dire que cette parole que j'ai dite, on n'en va plus du tout en discuter. C'est comme ça, c'est vraiment gravé dans le marbre. Toc. Ou lorsqu'on a signé, on a mis la signature, on l'a écrit. C'est écrit. On a ce type d'expression qui nous montre que la loi peut être figée, qu'elle peut donc déraper. Parce que la loi dans l'Ancien Testament est assez, je dirais, mouvante, fluctuante. Elle n'a jamais été vécue, malgré tout ce que je viens de dire, toujours de la même manière selon les circonstances et selon les personnes. Si vous prenez la loi du Lévitique, qui est quand même extrêmement sévère, extrêmement dure, ça correspond à une période d'Israël extrêmement troublée, c'est-à-dire aux alentours de l'exil à Babylone. Donc il fallait vraiment bétonner au maximum pour que le peuple hébreu, à l'intérieur de cette loi, soit à l'abri des murailles de cette loi. La moindre transgression de la loi est punie de mort, quelle que soit cette transgression. Parce que sinon, on met en danger l'existence même d'Israël, qui n'a plus de terre, qui n'a plus de temple, qui n'a plus de roi. Vous voyez, il ne reste plus que la loi. Donc on est dans la loi, où on n'y est pas pour survivre. Isaïe, qui est à une autre période, un peu avant l'exil, il y a encore la royauté avec ses excès de classes dirigeantes qui exploitent les autres, et ainsi de suite. Vous aurez chez Isaïe, chez Amos, chez Osée, ces prophètes de la royauté, des applications de la loi, des références à la loi qui seront différentes. Mais ce sera la justice sociale qui va être importante à ce moment-là, parce que c'est là où ça dérape. C'est intéressant de voir ça, parce qu'en fonction des circonstances, bien la loi peut être appliquée d'une manière ou d'une autre. Mais le grand prophétisme, s'il a saisi cela, tout le monde ne le saisit pas malheureusement, hélas. Et la loi peut être radicalisée, confisquée et définir. Le risque de toutes les intégristes, le risque de définir un en la loi et un hors la loi. Dans ce cas-là, la loi risque d'exclure, de juger, de condamner, malheureusement. Ce qui fait qu'on va se retrouver dans la loi ou prétendre être dans la loi, c'est quand même l'effet de l'orgueil ou de la peur de ne pas être dans la loi, la peur d'un Dieu qui risque de juger. On a là des notions de Dieu qui fonctionnent avec ses applications à la rigueur de la loi, un Dieu qui ne correspond pas tout à fait, à mon sens, à la vision de Jésus-Christ, de sa prédication et de celle des apôtres. Il y a cet orgueil aussi de certains qui peuvent dire « moi je suis dans la loi », qu'on appelle un peu les pharisiens dans le Nouveau Testament, qui le disent et qui le redisent. Alors la loi qui peut être formidable, selon la manière dont on va s'en saisir, qui peut être un lieu de vie, qui peut protéger les plus pauvres. Vous savez que, par exemple, dans la loi, lorsque quelqu'un a des dettes qu'il ne peut pas rembourser, eh bien, on peut tout lui prendre. Comme aujourd'hui, vous avez l'huissier qui arrive et puis qui retire tout. J'espère que ça ne vous est pas arrivé. Dans l'Antiquité, on disait qu'on pouvait tout prendre, sauf le manteau. Et dans la loi, dans la Torah. Parce que le manteau, c'est ce qui couvre la nudité. de la personne, donc sa personne en intimité, d'une part, c'est ce qui permet de pas avoir trop froid l'hiver et de pas avoir trop chaud l'été. Il faut laisser le manteau à la personne qui est la plus pauvre et qui ne peut pas rembourser ses dettes, vous voyez. Il y a des pointes comme ça dans la Torah qui sont assez géniales, je trouve. Et pourtant, vous savez, radicaliser, confisquer, mise au service d'un orgueil ou de la peur, ou d'une prétendue possession de la vérité, la loi peut être mortifère et paralysante. C'est pour ça que, lorsque des hommes comme Paul et d'autres encore, recevant la prédication de Jésus-Christ ou étant frappés par un événement qui les touche particulièrement, vous savez que Paul ne connaît qu'une seule chose, hein, c'est qu'il est mort et ressuscité. Hein. C'est ce qu'il dit lui-même hein, à la suite de l'expérience de Damas, de cette rencontre avec au chemin de Damas. Bien, tout le Nouveau Testament va être de dire bien, en Jésus-Christ et en l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu, eh bien, il y a là une nouvelle alliance. Une alliance qui est fondée sur la mort et la résurrection, qui est une alliance qui est fondée sur la vie et sur la mort vaincue. Je veux dire, même s'il y a un hors-la-loi, peu importe, cet hors-la-loi ne conduira pas à la mort. C'est pas possible. La mort est une fois pour toutes vaincue. Alors vous me direz, c'est vrai que la mort biologique subsiste, elle est dramatique pour ceux qui ont subi cette mort à travers le deuil de personnes proches, ça va de soi. La mort, elle est là, évidemment, elle est nécessaire, hélas, si je puis dire, pour que nous puissions vivre. Il y aurait là un long débat à voir qui n'entre pas dans le cadre de cette prédication, mais s'il n'y a pas de mort, il ne peut pas y avoir de vie aussi, hélas, pour ceux qui en ont fait l'expérience. Mais en Jésus-Christ et par la prédication des apôtres, cet absolu de la mort est écorné d'une certaine manière. Il est écorné, donc le pouvoir absolu de la mort eh bien, s'effondre automatiquement parce que par définition, il n'est plus absolu. Il s'effondre et son pouvoir dramatique aussi s'effondre pour faire place à la grâce, à l'espérance, à cette résurrection qui est là et qui est si problématique, qu'on a du mal à saisir, qui est là en espérance. L'absolu n'est plus un absolu. Et il y a donc une libération qui est là, une libération qui est importante. Parce que dans notre esprit, la faute conduit au jugement et à la punition. Et la faute extrême conduit à la punition extrême et à la mort. Et donc, à partir du moment où la mort est vaincue, eh bien, il y a cette porte ouverte à une espérance qui se retourne vers le jugement. Oui, la loi subsiste. La loi subsiste. Jésus n'a jamais renié la loi. Là, il ne faut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Le Nouveau Testament dit même que le commandement est saint, juste et bon. La loi subsiste, elle peut juger, mais elle juge la faute. Et elle juge jamais l'homme dans le Nouveau Testament. Et c'est là où la nouveauté. Là où dans la Torah on aurait lapidé quelqu'un, eh bien dans le Nouveau Testament, on va dénoncer la faute, mais laisser vivre la personne. Vous connaissez tous l'histoire de la femme adultère. À qui arrive cette histoire et à laquelle Jésus dit « Moi, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. » De même pour l'aveugle-né, de même pour toutes celles et tous ceux que Jésus a rencontrés dans son ministère et qu'il a libérés, finalement, de maladies qui les accablaient et qui étaient vues comme étant le résultat d'un jugement de Dieu sur leur personne. C'est assez intéressant de voir cela, parce que de toutes ces misères humaines, de toutes ces peurs humaines, Dieu va faire surgir quelque chose de positif qui est l'espérance en la vie. L'espérance dans l'être humain, qui n'est pas vu comme quelqu'un qui est susceptible d'être détruit, d'être condamné, jugé, mais qui est susceptible d'être appelé toujours à la vie. C'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance telle que Paul en parle. Une alliance qui va être inscrite non pas sur la pierre comme la première alliance, mais qui va être inscrit dans le cœur même des hommes, dans la chair des hommes, qui va faire des hommes les témoins d'une parole extraordinaire qui est une parole libératrice. C'est pour ça que Paul dit à ses paroissiens de Corinthe, eh bien, vous êtes des lettres de recommandation, parce qu'en vous, il y a quelque chose qui se passe, vous avez cette loi nouvelle qui est inscrite dans vos cœurs même et dans vos vies même. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas une loi formelle, finalement. Pas une loi non plus écrite, ça va de soi. Mais cette loi, elle est là. Elle est là dans l'humain, Elle est là dans le vivant, véritablement, et fait corps avec. On n'oublie pas la loi, évidemment, mais on va en chercher l'essence. L'essence qui est l'amour de Dieu, qui s'exprime aussi bien pour son peuple au Sinaï que dans les cœurs des hommes. Parce qu'elle échappe à la paralysie de l'écrit, devient quelque chose d'universel. Le grand prophétisme l'avait saisi petit à petit, cette universalité de Dieu. Le Nouveau Testament va l'affirmer avec force. Le cœur des hommes, de tous les hommes, devient le lieu même de cette alliance universelle. C'est l'Esprit Saint qui est là. Ah, vous me direz, mais alors l'Esprit qui vivifie, qui donne la vie, ou l'Esprit qui donne la vérité, on a du mal à définir ce qu'est l'Esprit. L'Esprit, c'est rapidement, là, en quelques mots, c'est cette puissance qu'il y a dans le monde qui exprime Dieu, qu'on peut appeler Dieu, ça dépend comment vous le voyez, mais qui est là dans le monde et qui fait vivre le monde, dans tous les compartiments de la vie, de l'évolution, du changement, du progrès, etc. C'est cette puissance qui est là, qui fait que lorsque deux êtres se rencontrent, et si l'Esprit est là, ces êtres auront l'un pour l'autre, cette volonté de les porter au maximum de leurs possibilités, de leurs dons. L'Esprit est en nous, il est universel, il est le souffle de vie, le souffle au commencement, hein, l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux, cet Esprit que Dieu va souffler dans les narines d'Adam, comme on dit de manière très imagée dans ce mythe de la Genèse. L'Esprit de Dieu, le souffle, hein, qui fait vivre finalement, qui est là, soufflé dans tous les humains, au cœur même de tous les humains, puisqu'il est, là, insufflé dans le corps même d'Adam. C'est cet Esprit qui est parole, mais qui est vraie parole, ce que dira l'Évangile de Jean, qui est Logos, ce fameux Logos. Cette parole qui est lancée dans le monde comme ça et qui vient toucher les hommes à un moment donné à un autre avec toutes les variantes, les richesses de toutes les paroles humaines. Vous savez que très souvent on se penche sur la tour de Babel pour savoir si c'est une malédiction ou une bénédiction. Hein? Question. À votre avis, si on vous pose la question, on va dire, oh, le coup de la tour de Babel, c'est une malédiction, parce que bon, mais ben, c'est pas si sûr que ça. Parce que les langues humaines sont tellement riches, tellement variées, elles expriment quelque chose de tellement extraordinaire dans leur variété que c'est véritablement une bénédiction. Et je cite toujours l'exemple qu'on m'avait donné des Esquimaux qui ont, je sais pas, 20 ou 30 mots pour dire la neige, alors que nous en avons deux ou trois. Parce que eux, ils sont confrontés à ce phénomène qui, pour nous, n'est que passager. Donc, évidemment, nous n'avons pas la richesse dans ce domaine. Et ainsi de suite, nous pourrions multiplier sans doute les exemples pour montrer la complémentarité des langues, leur richesse, finalement, cette richesse de l'humain qui s'exprime. Il y a là ce logos, cette parole dont on dit, hein, les théologiens parlent dans leur jargon un peu dinosauresque, de logos spermaticos, hein, c'est-à-dire une parole qui sème quelque chose, qui sème quelque chose d'absolument essentiel dans le monde, mais au-delà de nos cercles de croyants, de pratiquants, je veux dire, mais qui sème quelque chose dans le monde, dans tout le cœur de tous les hommes. C'est assez étonnant de discuter avec l'un d'entre nous une fois à propos de la sagesse, qui est une autre manière de dire l'esprit, cette sagesse que l'on saisit comme étant marquée de l'esprit de Dieu. Cette sagesse, si vous lisez là au-dessus, par exemple, donc on va en Chine là, je veux dire, on n'est pas tout à fait dans le monde chrétien, loin de là. Si on lit à côté les Proverbes, par exemple, ou le Siracide, ou que sais-je encore, ces livres qu'on appelle les livres de la sagesse dans l'écriture, eh bien vous verrez qu'il y a des choses qui sont tellement semblables qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui passe au travers de l'humain, quelque chose qui est de l'ordre de la sagesse, de l'intelligence finalement, quelque chose qui vise à faire vivre les êtres humains, non pas seulement biologiquement parlant comme ça, mais dans une autre dimension, dans la dimension de la rencontre, de l'amour, etc. Pour ça que cet esprit qui est là, cet esprit qui est souffle, qui est parole, qui est sagesse, qui est même ineffable finalement, qui se vit plus qu'il ne se dit, parce qu'il se dit avec tellement de difficultés, comment exprimer une telle chose. Eh bien, cet esprit est l'esprit de liberté. Il n'y a personne qui puisse échapper à cet esprit finalement, cet esprit qui est inscrit au cœur de tout être humain, qui est là, parole, qui est là, à la disposition du monde, qui n'est lié à rien. Et qui donc peut toucher tout le monde. Oui, l'esprit, c'est la liberté. C'est cet esprit de liberté et de sagesse qui va nous faire prendre en compte, finalement, la loi elle-même, et qui va nous la faire lire comme elle doit être lue, lire comme une loi elle-même de liberté. Il ne faut pas oublier que la loi de Moïse est liée à l'Exode, c'est-à-dire à la libération de l'esclavage, et qu'elle pose en premier lieu la justice de Dieu, qui est d'abord une justice sociale, qui pose en premier la dignité de l'être humain, sa valeur. et la justice sociale. L'esprit et vie, non pas à ce sens biologique, comme je dis, mais les libertés et les vies, parce qu'elle va donner à nos vies du sens, un sens qui nous échappe, un sens qui est de l'ordre de l'espérance. Alors, c'est vrai que souvent, on se pose la question de la transfiguration. Je crois que la transfiguration, si elle est celle du Christ, je ne sais pas très bien comment c'était, de même que la transfiguration de Moïse, qui rayonne, c'est un peu le même type de phénomène, si vous voulez, je ne sais pas très bien comment ça se passe. Mais ce que je sais, et ce que peut-être vous savez aussi, c'est que la transfiguration nous touche les uns les autres. Je suis sûr que si vous cherchez dans vos souvenirs des rencontres avec des personnes, des visages que vous voyez, vous avez certainement vu des visages transfigurés, des visages qui expriment tellement de choses sans dire un mot, qu'on se dit là, tiens, dans cette personne, il se passe quelque chose qui ne peut pas se dire, mais quelque chose qui a une valeur profonde en la vie, qui s'adresse à moi précisément, et qui va me porter et me faire vivre aussi. C'est ça la transfiguration, pas un phénomène surnaturel finalement, quelque chose qui se passe dans le regard de l'autre, dans l'altérité. Et c'est pour ça que le voile est levé. Le voile est levé parce que la parole, la loi n'est pas écrite dans le marbre qui serait intangible et sacré, mais la parole, elle est inscrite au cœur des hommes qui rayonnent effectivement. L'esprit Paul saisit dans ses communautés corinthiennes qui en font sa lettre de recommandation, comme il dit, cet esprit, il est là. Il est là parce que c'est l'esprit de l'amour de Dieu qui s'exprime à travers les hommes. C'est un moment d'espérance et c'est toujours le royaume qui affirme sa présence dans le monde. Amen.